Anga dung. Anga dung. Anga dung.
Anga dung.
Anga
dung.
Dung.
Gardong.
Bonjour à tous les matinaux et tous les couche-tard. Donc, voici une nouvelle session de Hunger Dong, l'émission de création sonore expérimentale poético-libertaire dadaïste. Et bonjour Erato. Erato, on ne peut pas l'entendre ce matin. Bien, donc, ici Hans Kaglouk pour vous. Pour cette nouvelle session. Alors, nous allons commencer tout d'abord par l'habituel spam du mois, puis diverses propositions de détournement sonore, d'amusement, de délire food truck, littéraire et autres. Et nous vous annonçons la venue exceptionnelle en ce matin d'un fameux historien sonologue, Len Sundquist, qui va venir nous parler de ses dernières trouvailles en matière d'archives sonores, bizarres, étranges. Eh bien, Erato, nous pouvons donc lancer ce fameux spam du mois.
Il arrive, Anska.
Personnalisez votre tapis d'entrée, sujet, re-personnalisez votre tapis d'entrée, de Actimat, actimat@orange.fr, date, mon 1FEP 2016, 11h30min39s plus 01.00 pour, bip.net, bonjour. Vous avez ouvert il y a quelques jours un mail proposant la réalisation de votre tapis d'entrée personnalisé. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier avec vous la manière de valoriser de façon efficace l'accueil de votre entreprise. Pour cela, je vous offre la mise en scène virtuelle de votre tapis d'entrée avec votre logo. Alors transmettez-nous votre logo par retour de mail. Cordialement, croisillon $100 et sperluette, croisillon asterisque plus sperluette, plus croisillon 0 12 33 42 20 25, 25 pour ne plus recevoir de courriel de notre part. Merci de cliquer ici. 1 sur 1, 1, 2, 16, 13h15.
Bonjour. Bonjour. Je vais voir si je trouve mon bonheur.
Fouillez, fouillez.
Voilà, il nous faut autre chose.
Ce sera tout.
Alors 35,21 €. 35,21.
30.
Enfin, bonjour. Oui. Déclassé, j'en ai en occasion, j'en ai pas, j'en ai qu'en déclassé. Je voudrais ça, vous m'accordez deux petites secondes, s'il vous plaît. Alors, la cassée. Bardage, 63 centimes en 4 mètres. En 4 mètres, le mètre carré, 7,10 euros TTC. Et on a ça en stock. Hein. D'accord. De rien. Au revoir. Merci. Je ne vous ai pas donné la facture, donc je ne vais pas tarder à le faire.
Oui. Tenez. Merci.
Vous chargez, vous reculez.
Ouais, je recule.
Dedans, dans le hangar.
Dedans, ouais.
Au fond, là-bas, derrière la porte.
Où ça, là-bas, là-bas.
Ouais, voilà, derrière la porte.
Ouais.
Allez, hop.
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avions traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule. L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées. Honte la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Bêtise. Bêtises, bêtises, bêtises infinies, 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 infinies bêtises, infinies bêtises, infinies bêtises, infinies bêtises.
Démarrage en douceur ce matin de février pour Hunger Dong. Alors nous avons tout d'abord entendu le spam du mois qui s'intitulait « Personnaliser votre tapis d'entrée », ce qui est très important, n'est-ce pas, Hirato? Puis nous avons pu entendre, comment dire, un achat de métal à l'entreprise Bergès aux Minimes à Toulouse, accompagné d'un ascenseur d'un hôtel bizarre du côté de Bordeaux. Un duo de deux musiciens inconnus, anonymes, pour cymbalum, piano, repréparé et tôle, meuble, et un peu de flûte, bonne souris sur sciante de métal. La deuxième pièce, c'était quoi? C'était l'Albatros, un poème de Baudelaire, accompagné des vagues de l'océan, d'un sample de John Cage, de l'album 72, de Lives Ensemble, et un japonais fou qui s'excite sur une caisse de batterie. Et enfin, dernier morceau, mais non des moindres, Bêtise infinie, un monologue d'Erato muant sur boucle technocool et descente d'adrénaline sonique. Merci Erato, ça m'a beaucoup plu. Et on continue pour une deuxième partie avec le mom du mois, puisqu'on a toujours un mom dans l'émission.
Du
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 Dans un grand dîner, ne seront servis que décortiqués. Marinière ou poulette se réserve à l'intimité où chacun, pour les déguster, doit pouvoir à son aise siffler la chair dans la coquille. Bien entendu, les rince-doigts seront ensuite indispensables. Quant à moi, pour ne jamais être tenté de dire « quant à moi », qui serait un affreux solécisme, faites donc un petit effort et dites « en ce qui me concerne ». Au demeurant, le « quant à moi », le « quant à soi » sont des substantifs et on ne doit les utiliser que précédés d'un article. Escargot. De la main gauche, avec ou sans pince, vous tiendrez la coquille. De la droite, avec votre fourchette, spéciale à deux dents, ou bien ordinaire, vous piquerez à même la chair pour l'extirper. Et lorsque vous porterez la coquille à votre bouche pour aspirer les dernières parcelles de cet exquis beurre d'escargot, faites-le si possible sans émettre un long sifflement de locomotive. Honneur. On ne demande plus guère à qui on a l'honneur de parler. On ne termine plus une lettre en disant « et j'ai l'honneur d'être, madame ». Mais en Grande-Bretagne, lorsqu'il s'agit de s'adresser à un magistrat, on dit encore « votre honneur ». C'est complètement con, ces trucs.
Oui.
Ça, je veux dire, c'est vraiment le top de l'inutile. Non ?
Si tu veux.
Enfin, je veux dire, c'est quand même dingue, ce truc. Saucer. À vrai dire, on ne sauce qu'en France. Sans doute à la fois parce qu'on y dévore plus de pain que partout ailleurs et parce que les Français considèrent qu'une sauce savoureuse et réussie fait partie intégrante de leur bonheur. Partant de là, nous aurions tort de penser néanmoins que, dans un grand dîner, armé d'un petit morceau de pain où l'on pique sa fourchette, on peut recueillir un jus trop délectable pour être abandonné. Bien plus tort encore de croire que, même dans l'intimité, on peut saucer en tenant entre deux doigts ce petit morceau de pain. Ce geste est toujours rigoureusement interdit. Désordre. Attends, j'ai pas compris, je comprends pas la phrase, excuse-moi. Désordre. Beau ou non, n'est jamais... Beau ou non, n'est jamais un effet de l'art. On se moque du désordre ? Ha ! Quelle folie ! À vrai dire, le désordre qui règne dans vos tiroirs, dans votre bureau, dans votre cuisine, menace de devenir aussi désordre de l'esprit. Discrétion, oui. Soyez discrète avec tous vos sens. Sachez ne pas parcourir machinalement la lettre qui traîne sur un meuble. Fermez vos oreilles si quelqu'un parle devant vous au téléphone. N'essayez pas à votre doigt la bague de fiançailles qui vous fait admirer votre... N'essayez pas à votre doigt la bague de fiançailles que vous fait admirer une amie. Dans ce domaine, plus que dans aucun autre, gardez-vous encore de faire à autrui. Acteur. De grâce, laissez-les respirer. Faites qu'ils cessent au moins en votre présence de jouer encore un rôle. Faites qu'ils cessent au moins en votre présence de jouer encore un rôle, celui de donneur d'autographe. Adieu. En public, gagne toujours à être abrégé. Et dans une gare, n'oubliez pas non plus qu'il faut se garder d'occuper à soi seul toute la vitre du compartiment pour agiter une dernière fois son mouchoir. Aïe. Un régal auquel il faut hélas renoncer si l'on passe l'après-midi avec des personnes étrangères à ce festin. À dîner, les risques seront moindres. Chez vous, en tout cas. Vous utiliserez l'ail avec précaution et seulement avec ceux dont vous connaissez les dilections à cet égard. Un peu marre de ça.
Don't wait for me. The job failed.
Bêtise infinie. Bêtise infinie. Infinie. Infinie.
Nous avons donc ensuite écouté Jeudi Beat, Camille 6 ans et sa mère au petit déjeuner pour une leçon d'orthographe un peu spéciale. Un distributeur automatique à Marseille. Un extrait des 7-2 de John Cage. Suivi d'une musique aléatoire mélangeant opéra, flamenco, rap, rock, chanson, mixée de façon aléatoire par le robot compositeur. Puis enfin, pas enfin mais ensuite, le manuel du savoir-vivre dit par Hanska, avec son d'orgue à bouche chinois joué par un certain Étienne Rollin, qui disait notamment: n'essayez pas votre doigt à votre doigt la bague de fiançailles que vous fait admirer une amie. Enfin, Give Me It de The Cure, album The Top 1984, avec une mauvaise compression en MP3, capté sur YouTube à l'adresse https://www.youtube.com/watch=v=b.jthqhb. En public, c'était né où?
Bêtise.
vin et du haschich, comparé comme moyen de multiplication de l'individualisme de l'Europe. 1851. Le vin. Un homme très célèbre, qui était en même temps un homme sot, chose qui vont très bien ensemble à ce qu'il paraît, ainsi que j'aurais pu une fois sans doute le douloureux plaisir de le démontrer, a osé dans un livre sur la table composé au double point de vue de l'hygiène et du plaisir, écrire ce qui suit à l'article 20. Le patriarche Noé passe pour être l'inventeur du vin. C'est une liqueur qui se fait avec le fruit de la vigne. Et après, rien. C'est tout. Vous aurez beau feuilleter le volume, le retourner dans tous les sens, le lire à rebours, à l'envers, de droite à gauche et de gauche à droite, vous ne trouverez pas autre chose sur le vin dans la physiologie du très illustre et très respecté Brillat Savarin. Le patriarche Noé, et c'est une liqueur. Je suppose qu'un habitant de la Lune, de quelque planète éloignée, voyageant sur notre monde et fatigué de ses longues étapes, pense à se rafraîchir au palais, à se réchauffer l'estomac. Il tient à se mettre au courant des plaisirs et des coutumes de notre Terre. Il a vaguement ouï parler de liqueurs délicieuses, avec lesquelles les citoyens de cette boule se procuraient à volonté du courage et de la gaieté. Pour être plus sûr de son choix, l'habitant de la Lune ouvre l'oracle du goût, le célèbre et infaillible Brillat Savarin, et il y trouve à l'article 20 ce renseignement précieux. Le patriarche Noé et cette liqueur se fait. Cela est tout à fait digestif. Cela est très explicatif. Il est impossible, après avoir lu cette phrase, de n'avoir pas une idée juste et nette de tous les vins, de leurs différentes qualités, de leurs inconvénients, de leur puissance sur l'estomac et sur le cerveau. Ah, chers amis, ne lisez pas Brillat Savarin. Dieu préserve ce qu'il chérit des lectures inutiles. C'est la première maxime d'un petit livre de Lavater, un philosophe qui a aimé les hommes plus que tous les magistrats du monde ancien et moderne. On n'a baptisé aucun gâteau du nom de Lavater, mais la mémoire de cet homme angélique vivra encore parmi les chrétiens quand les braves bourgeois eux-mêmes auront oublié le Brillat Savarin, espèce de brioche insipide dont le moindre défaut est de servir de prétexte à une dégoisade de maximes niaisement pédantesques tirées du fameux chef-d'œuvre. Si une nouvelle édition de ce faux chef-d'œuvre ose affronter le bon sens de l'humanité moderne, buveur mélancolique, buveur joyeux, vous tous qui cherchez dans le vin le souvenir ou l'oubli, et qui, ne le trouvant jamais assez complet à votre gré, ne contemplez plus le ciel que par le cul de la bouteille, buveurs oubliés, méconnus, achèterez-vous un exemplaire et rendrez-vous le bien pour le mal, le bien fait pour l'indifférence. J'ouvre le Klesleriana du divin Hoffmann et j'y lis une curieuse recommandation. Le musicien consciencieux doit se servir du vin de champagne pour composer un opéra comique. Il y trouvera la gaieté mousseuse et légère que réclame le genre. La musique religieuse demande du vin du Rhin, du Jurançon. Homme au fond des idées profondes, il y a là une amertume enivrante. Mais la musique héroïque ne peut pas se passer de vin de Bourgogne. Il y a la fougue sérieuse et l'entraînement du patriotisme. Voilà certainement qui est mieux. Et outre le sentiment passionné d'un buveur, j'y trouve une impartialité qui fait le plus grand honneur à un Allemand. Hoffmann avait dressé un singulier baromètre psychologique, destiné à lui représenter les différentes températures et les phénomènes atmosphériques de son âme. On y trouve des divisions telles que celle-ci. Esprit légèrement ironique, tempéré d'indulgence. Esprit de solitude avec profond contentement de moi-même. Gaieté musicale. Enthousiasme musical. Tempête musicale. Gaieté sarcastique insupportable à moi-même. Aspiration à sortir de mon moi. Objectivité excessive. Fusion de mon être avec la nature. Il va sans dire que les divisions du baromètre moral d'Hoffmann étaient fixées suivant leur ordre de génération, comme dans les baromètres ordinaires. Il me semble qu'il y a entre ce baromètre psychique communication, une qualité musicale neuve, une fraternité évidente. Hoffmann, au moment où la mort vint le prendre, commençait à gagner de l'argent. La fortune lui souriait. Comme notre cher et grand Balzac, ce fut vers les derniers temps seulement qu'il vit briller l'aurore boréale de ses plus anciennes espérances. À cette époque, les éditeurs qui se disputaient ses comptes pour leur almanach avaient coutume, pour se mettre dans ses bonnes grâces, d'ajouter à leur envoi d'argent une caisse de vin de France. Profonde joie du vin. Qui ne vous a connu ? Quiconque a eu un remords à apaiser, un souvenir à évoquer, une douleur à noyer, un château en Espagne à bâtir, tous enfin vous ont invoqué Dieu mystérieux caché dans les fibres de la vigne. Ils sont grands les spectacles du vin, illuminés par le soleil intérieur. Quelle est vraie et brûlante cette seconde jeunesse que l'homme puise en lui. Mais combien sont redoutables aussi ces voluptés foudroyantes et ces enchantements énervants. Et cependant, dites, en votre âme et conscience, juge, législateur, homme du monde, vous tous que le bonheur rend doux, à qui la fortune rend la vertu et la santé facile, dites, qui de vous aura le courage impitoyable de condamner l'homme qui boit du génie ? D'ailleurs, le vin n'est pas toujours ce terrible lutteur sûr de sa victoire, ayant juré de n'avoir ni pitié ni merci. Le vin est semblable à l'homme. On ne saura jamais jusqu'à quel point on peut l'estimer, le mépriser, l'aimer et le haïr, ni de combien d'actions sublimes ou de forfaits monstrueux il est capable. Ne soyons donc pas plus cruels envers lui qu'envers nous-mêmes, et traitons-le comme notre égal. Il me semble parfois que j'entends dire au vin, il parle avec son âme, avec cette voix des esprits qui n'est entendue que des esprits. Mon bien-aimé, je veux pousser vers toi, en dépit de ma prison de verre et de mes verrous de liège, un chant plein de fraternité, un chant plein de joie, de lumière et d'espérance. Je ne suis point ingrat. Je sais que je te dois la vie.
L'homme est le maître de la nature, on a cru un moment, on peut changer les mots, en tant qu'il est maître des environnements, et s'imagine que le monde n'est que la somme des environnements dont il maîtrise tous les aspects, pouvant monter à 10 000 km, descendre, etc. Et par conséquent, il serait, en étant le maître des environnements, le maître de tout le monde. Mais le monde n'est pas l'environnement. Alors c'est la question difficile, au fond, c'est qu'est-ce que c'est que ça, le monde ? Donc, Augustin Berg emploie un mot comme œcumène, qui désigne cette relation. Quel monde voulons-nous, donc, avec quelle terre et sur quelle terre ? Hein, car la planète, c'est la vue que l'on prend sur cette Terre quand on est extraterrestre. Justement, d'où est-ce que c'est une planète ? C'est quand on est en dehors de la Terre. Or, les deux manières qui menacent, je pense qu'on peut manier ce terme très souvent, qui menacent gravement, c'est même au-delà de la menace, la Terre, sont la déterrestration et l'extraterrestration. Alors la déterrestration, c'est, si vous voulez, c'est la dévastation. Parce que moi, je parle, je pense vous aussi, dans une, au fond, un accablement fantastique.
Un accablement inouï.
C'est là-dessus qu'il va.
Oui,
si je regarde comment partout dans ce bas-monde, à tout instant, on va dire la scarification, la torréfaction, la dévastation de la Terre. C'est pourquoi d'ailleurs, à la fin, je dis, finalement, s'il y a dévastation, quel serait le vaste?
Et c'est un mot chaud, chercher pour mesure on peut opérer
résister. Mais extraterrestration, c'est le point de vue que je prends quand je suis dans un...
La translation
des reliques, la translation, je suis dans
la cassine.
Comment l'enseigner, le faire
aujourd'hui,
lui.
Alors là, on va arriver
bientôt dans le langage. Une résistance à la mutation en cours, mutation.
Okay.
Non, c'est très important.
Non, qu'y a-t-il
l'être. C'est le monde que dans le langage, hein, profond, où je prends aussi un mot de Primo Levi que j'aime tellement. La recherche de fatum de l'humanité. La recherche fatum de l'humanité.
Ah, j'ajoute un mot pour vous.
Vous indiquez
non, attends, si vous
c'est une pente. Poétique,
enfin, très profond,
poétique au philosophe, peut s'attacher à quelque chose comme
une résistance à la mutation en cours, mutation.
Si vous écoutez la tour, beaucoup, et vos chimistes,
beaucoup plus engagés qu'on
croit.
Car il s'agit de quoi il s'agit de
la mort, échapper. Et j'ajoute, moi, le changement de paradigme est un changement de comparant, très très souvent. Alors, quel comparant choisissons-nous? Bref, le direct, bref, vous avez. C'est de la publicité qui peut s'attacher à quelque chose comme une résistance à la mutation en cours, mutation qui très très bref à toute néo à l'écologie contre l'écologie elle de logos et qui ne s'accomplit pas seulement sous cette forme disons visible de dévastation des fleuves par les incendies etc qui va dans le sens de la dévastation où je prends un mot de Primo Levi que j'aime tellement la recherche fatum de l'humanité beaucoup plus engagée qu'on ne croit.
Les injonctions sur cette planète.
D'échapper à je prends aussi un mot dans l'enjeu que j'aime absolument. La silicone va vous prépare l'immortalité. Bon, c'est ça le changement. Non, l'environnement, on en parle depuis.
Les injonctions.
La silicone va vous prendre de l'image des choses.
B
Bêtise, bêtise, alors montre...
Les choses sont devenues des images.
Bien, merci, Raton. On a eu un petit bug technique. C'est pas grave, ça arrive. Donc je disais, entre autres bêtises, on a entendu une sorte de medley psychédélique réalisé dans une chambre sombre, parce que la nuit tombait. Ça mélangeait projections de Yoshi Yuasa, album de 1962. Il y avait également un extrait de Karlheinz Stockhausen. Alors, mon allemand n'est pas très bon, donc c'était le morceau Gesang der Jingle. Nous avons entendu également Sarah Barras, danseuse de flamenco, qui danse sur un morceau nommé El Albaicin, et puis les sons d'une manifestation contre les violences policières à Paris l'année dernière. Ensuite a suivi un morceau de Charles Baudelaire, tiré des paradis artificiels, du vin et du hashish, le vin, un homme très célèbre qui était en même temps un grand sot, choses qui vont très bien ensemble à ce qu'il paraît, ainsi que j'aurai plus d'une fois sans doute le douloureux plaisir de le démontrer à oser dans un livre sur la table composé au double point de vue de l'hygiène et du plaisir, écrire ce qui suit à l'article 20. Le patriarche Noé passe pour être l'inventeur du vin, c'est une liqueur qui se fait avec le fruit de la vigne. Et puis il y avait également le tourdillon, c'est un chant traditionnel de l'audation du vin. Et également une berceuse dodo fillette et dodo minette, comptine traditionnelle transformée par Franz, le robot compositeur. Tout cela suivi de Sun Ra and His Orchestra, Love in Outer Space, de l'album Love in Outer Space de 1988. Et enfin, la pièce plutôt sympa, Extraterrestration, montage d'après une émission concurrente sur la radio publique à la même heure environ, tous les samedis matins, avec les interventions de Michel Deguy, poète et donc accessoirement philosophe de l'extraterrestration. Et maintenant, à tous les auditeurs, nous recevons une personne un peu spéciale. En effet, nous recevons donc en ce samedi matin l'historien sonologue Len Sundquist. Alors bonjour Len.
Eh bien bonjour.
Bienvenue à Hunger Dong pour cette première. Nous sommes ravis de vous accueillir. Alors, Len, qui êtes-vous exactement ?
Eh bien, je suis un historien, musicologue, sonologue de l'université de la Musikkonservatoriet de Falun, en Suède, où j'ai été formé.
Parfait, c'est beau palmarès. Alors, comment travaillez-vous, Len ? Enfin, c'est-à-dire là, vous venez pourquoi exactement ce matin ?
Eh bien, figurez-vous que, comme tous les historiens le savent, l'histoire est un combat dont l'issue n'est jamais fatale. Et donc, on peut toujours remonter sur les pistes, sur les traces de la musique ou du son. Et c'est mon travail. Effectivement, j'ai décidé de, comment dirais-je, de retrouver d'illustres ou moins illustres musiciens, voire juste des personnes ayant commis du son, parce qu'on commet le son, et de les exhumer d'une certaine manière, de les faire revenir à la surface de l'actualité.
Donc là, vous êtes finalement une sorte d'archiviste sonore.
Eh bien, je me définis plus comme un archéologue, si vous voulez. Car l'archiviste, lui, c'est un gratte-papier.
Oui,
c'est un rond de cuir.
Racontez-nous un peu, c'est très étonnant la façon dont vous avez trouvé ce document sonore que vous allez nous faire écouter ce matin.
Oui, c'est une aventure. Alors, voilà, donc, il faut revenir à... Donc, bon, je vais vous passer tout le travail, effectivement, de pré-recherche qui se déroule de façon pas très glamour, au milieu des papiers. Il faut faire des fouilles documentaires, chercher dans des livres. Vous savez, les livres.
Oui.
Papier. Vous connaissez, ouais. Bon. Donc, pour nos plus jeunes auditeurs, des choses en papier qui conservent des informations antiques. Et donc, Une fois ce travail effectué, on part sur le terrain. Je pense que c'est la partie du travail qui vous intéresse le plus.
En effet, Hélène.
Alors, donc ça dépend dans quelle direction je peux être envoyé. Hein. Bon, moi, je cherche pas des mammouths, n'est-ce pas ?
Non, bien sûr.
Donc, je ne vais pas dans la Sibérie. Non, je suis plutôt un chercheur archéologue urbain.
Et donc, alors, racontez-nous comment vous avez trouvé ce fameux document, car les auditeurs sont vraiment impressionnés.
J'imagine, oui. Donc, si vous voulez, la question est de savoir qu'en fait, cette archive, je l'ai trouvée dans une poubelle, tout simplement.
Tout simplement, une poubelle de Toulouse ou...
Oui, une poubelle de Toulouse, d'accord, du centre-ville, de ce qu'on appelle ici l'hyper-centre.
D'accord, et je crois savoir que pour fouiller les poubelles du centre-ville de Toulouse, vous êtes accompagné généralement par votre fidèle assistant qui s'appelle Jorbi, c'est ça ?
Jorbi,
que vous
mon fidèle assistant.
Nous parler de Jorbi, s'il vous plaît.
Bien, il vient de vous dire bonjour, car Jorbi, oui Jorbi, Jorbi est un hamster.
D'accord.
C'est un hamster, parce qu'il possède des facultés physiques que je ne possède pas. Il a la capacité d'aller effectivement dans des recoins où je ne saurais m'aventurer dû à ma corpulence suédoise.
D'accord, très bien. Et donc, concernant cette archive-là, est-ce qu'il est possible pour vous nous la faire écouter ?
Ah bah absolument, je suis venu pour ça.
Ah,
parfait. Allons-y alors.
Donc, vous allez reconnaître le bruit caractéristique d'une cassette.
Oui, on ne dit rien. Voilà, une cassette. Voilà. Ça, on le dit, pardon.
Pardon, excusez-moi. C'est une cassette.
Oh mon Dieu, une cassette.
Alors, pour les plus jeunes, encore une fois,
une cassette. Bon,
je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent cette émission. Donc, une cassette, c'était un objet de plastique contenant une bande magnétique.
Magnétique, vous pouvez nous expliquer un peu ?
Alors, le magnétisme est un phénomène bien connu, hein, qui est fabriqué par la composition même ferromagnétique de la Terre, qui provoque un champ radiomagnétique, une force invisible mais toutefois bien réelle, et qui permet de fixer sur des particules donc magnétiques qui peuvent conserver des particules de fer elles-mêmes, fixées elles-mêmes.
Très bien. Passons au fait. Alors, oui.
Alors donc sur cette Jorbi a dégoté, si je peux me permettre, oui Jorbi, oui je sais que c'est toi, ça va, c'est bon. Cette cassette, c'est une. Alors, il y avait le boîtier. Alors, quand on a le boîtier, pour nous archéologues, c'est formidable, parce qu'une cassette sans étiquette, comme on dit chez nous. Mais avec le boîtier, c'est fantastique, car les gens ont écrit des informations sur le boîtier. Donc, il s'agit d'un montage sonore. C'est écrit au bic vert. Je vous la montre. Bon, c'est pas très radiophonique de montrer, mais vous pouvez imaginer. C'est écrit en vert au bic.
Donc là, c'était un objet, on va dire, de type parallépipède, environ de 12. Par 6 cm.
Avec une petite épaisseur. Oui. Je pense qu'il y avait deux types de boîtiers, les slim et les. C'est un boîtier slim, arrondi, de manière à mieux le ranger dans des tiroirs.
Qu'est-il écrit sur ce boîtier ?
C'est fantastique. Alors là, effectivement, nous rentrons de plein pied dans le passé. C'est très émouvant.
Et qu'est-il écrit sur le boîtier, Len ?
Oui, pardon ce moment d'émotion.
Je vois que vous êtes ému, Len, face à cet objet.
Je revis un petit peu c'est la Madeleine de Proust en plastique.
En effet.
Bon, alors donc voilà, je lis montage sonore préparé par Benoît Fernandez.
Oh, superbe. Alors donc nous allons écouter ce fameux montage sonore dans une sorte de gros boîtier.
Absolument.
Comment ça s'appelle
déjà ? Un magnétophone,
déjà ?
Ah, oui.
C'est ça.
Le problème étant qu'il a fallu aussi trouver ce magnétophone, je vais le.
Et je crois savoir que donc vous l'avez trouvé en Espagne. À plusieurs milliers de kilomètres d'ici.
Voici le magnétophone.
Bien sûr, il fallait pouvoir trouver l'outil pour pouvoir lire, en fait, provoquer
cette
le
cassette.
Son.
Et donc, je vois. Alors, voilà, à l'instant même, nous avons Len, donc vous pouvez l'entendre, qui insère la cassette à l'intérieur du boîtier.
Voilà. Donc, ce bruit caractéristique. Hein.
Et donc, nous lançons.
Je vais d'abord faire une chose. Un geste oublié. Alors, je vais rembobiner.
Ah!
Expliquez-nous, oui.
Les cassettes avaient une espèce de. Ça se compose sur comme deux rouleaux, si vous voulez. Il faut imaginer un métier à tisser. Et bien sûr, si on défile le rouleau dans un sens, la matière s'accumule d'un côté. Si on veut revenir au début, il faut rembobiner avec l'aide d'un moteur. C'est assez étonnant. Je vais vous faire écouter le. Maintenant, le rembobinage.
Oui, effectivement. C'est très beau.
Ah oui, c'est plutôt beau. Oui,
c'était,
ça me plaît.
Il était court, car en fait, on avait peu de choses à rembobiner.
D'accord.
On pourrait rembobiner la cassette entière, si on voulait. Ça prendrait environ 15 minutes. Je ne sais pas si vous voulez qu'on le fasse.
Non.
Non, bon.
On peut encore après. Merci, entre Hélène. Nous, mais bon, par contre, l'heure tourne. Et
d'accord. Je vais vite vous dire. Alors, vite fait, préparer donc ce montage préparé par Benoît Fernandez, qui est une personne, je pense, réelle. On parle là d'un.
On en profite pour faire un appel peut-être à Benoît Fernandez, qui peut-être va se reconnaître dans cette.
Bien sûr, Benoît Fernandez. Si vous m'entendez. Nous avons votre accompagnement du texte, l'approche, bon là c'est illisible, l'approche quelque chose par la colle, ou peut-être bon, une durée est annoncée de 6 minutes et 26 secondes. Je vous propose qu'on...
Allons-y.
J'appuie sur play.
Merci.
Voici le montage sonore préparé par Benoît Fernandez, accompagnant le texte Approche d'un rêve par la foi. La durée de cette bande est de 6 minutes et 25.
La vie, ça tourne.
I could play the thing I've been hearing. I came alive. I remember one night I was jamming in a chili house on 7th Avenue.
Listen, there's a phone call for you. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas.
C'était la fin. C'était magnifique.
Oui, c'est un document véritablement émouvant.
Ah,
oui,
c'est clair.
Très émouvant, en effet.
On peut remercier donc Benoît.
Benoît Fernandez.
Benoît Fernandez. Donc,
la question, c'était effectivement, que pensez-vous que sont ces sons et quel est cet objet finalement, cette œuvre?
Bien sûr, oui. En tant que musicologue, donc mon travail est après d'essayer d'analyser et de reconstituer le tissu historique du texte que nous venons d'entendre, du texte sonore, bien sûr. Alors, nous en sommes bien sûr qu'au stade de la spéculation. J'ai d'abord pensé à un document qui aurait pu être daté en 1985, car on entend 1 seconde 12 à peu près d'un discours de Ronald Reagan. Et on entend quelques syllabes particulièrement reconnaissables, mais enfin. Ensuite, j'ai dû revoir un petit peu ma datation parce qu'on entend aussi le rire caractéristique du Joker tel qu'il était présenté après le film Batman de Tim Burton. Donc voilà, par contre ces datations forcément restent aléatoires tant que je n'ai pas réussi à donc dater toutes les composantes du tissu sonore. Mais voilà, bien sûr, retrouver des traces de Benoît Fernandez pourrait nous aider à établir la véritable historicité du document.
Parfait, alors appel à témoins, hein, si vous connaissez ou avez connu Benoît Fernandez, n'hésitez pas à l'orienter vers lui.
Il y a quand même une technique très approximative, on sent quand même les gros doigts boudinés, donc j'ai supposé un étudiant de l'ESAV. J'ai reconnu là leur incapacité à produire des documents.
En vous remerciant, Benoît.
En tout cas,
Laine, pardon.
Oui, merci beaucoup, okay. Laine Sunquist. Donc on vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle aventure, une nouvelle archive sonore.
Merci.
feu les changeant. J'aurais voulu fixer dans mes yeux malvers ces balcons embrasés, ces bronzes, ce plan vert, cette émeraude éteinte et ce renard d'argent. Je reconnais, dit-il, ces danseuses de pierre, celles qui les conduisent en attendant leur rire, mais qui mettent à leur front ces reflets sous-marins. Le dormeur et des voix se frottent aux paupières. Des méduses, dit-il, des lignes, des halos, sous mes doigts fins sans fin déroulent leur pâleur. Dans l'opéra paré de pâles et de pleurs, l'orchestre au grand complet. Dans l'opéra paré de pâles et de pleurs, l'orchestre au grand complet contrefait mes sanglots. J'aurais voulu fixer dans ma folle mémoire cette rose, dit-il, cette mauve inconnue, ce domino fantôme au bout de l'avenir qui changeait comme seul le rêve de tous les soirs. Ces nuits, t'en souviens-t-il, de souvenirs mignons, avaient autant d'éclairs que l'œil noir des colombes. Rien ne nous reste plus de ces bijoux de l'ombre. Nous savons maintenant ce que c'est que l'amour. Ceux qui s'aiment d'amour, mais quel bras dresse. Et tes lèvres tenaient tous les soirs le pari d'un ciel de cyclamen au-dessus de Paris, aux nuits, à peine nuit, couleur de la tendresse. Le firmament pointait ses diamants pour toi. Je t'ai joué mon cœur sur les champs égales. Soleil tournant des boulevards, feu de Bengale, que d'étoiles à terre et par-dessus le toit. Quand j'y songe aujourd'hui, les étoiles très chères, le vent charriait trop le rêve dérivé, et le pas des rêveurs sonnait sur les pavés, des amis ramassés sous les portes cochères. Nous peuplions à deux l'infini de nos bras. Nous peuplions à deux l'infini de nos bras. Ta blancheur enflammait la pénombre éternelle. Et je ne voyais pas au fond de tes prunelles les yeux d'or des trottoirs qui ne s'éteignaient pas. Passe-t-il toujours des charrettes de légumes? Alors les percherons s'en allaient lentement, avec dans les choux-fleurs des hommes bleus dormants, des chevaux de marly se cabraient dans la brume. Les laitiers y font-ils une aube de fer blanc et pointe Saint-Eustache au crochet des boutiques? Les bouchers pendent-ils des bêtes fantastiques épinglant la cocarde à leur ventre sanglant? A-t-il à tout jamais décidé de se taire quand la douceur d'aimer un soir a disparu? Le phono mécanique au coin de notre rue qui pour 10 sous français chantait un petit air. Reverrons-nous jamais le paradis lointain, les Halles, l'Opéra, la Concorde et le Louvre? Ces nuits, t'en souvient-il, quand la nuit nous recouvre? La nuit qui vient du cœur et n'a pas de matin. Qu'importe à l'exil et que les couleurs soient fausses, on jurerait, dit-il, que c'est Paris si on le refusait. Qu'importe à l'exil et que les couleurs soient fausses, on jurerait, dit-il, que c'est Paris si on nous refusait de croire aux apparitions. J'entends le violon, prélude de la fosse. C'est l'opéra, dit-il, ce faux-follet changeant. J'aurais voulu fixer dans mes yeux mal ouverts ces balcons embrasés, ces bronzes, ce toit vert, cette émeraude éteinte et ce renard d'argent. Je reconnais, dit-il, ces danseuses de pierre, celles qui les conduit brandit un tambourin, mais qui mettent à leur front ces reflets sous-marins. Le dormeur réveillé se frotte les paupières. Des méduses, dit-il, des lignes, des halos, sous mes doigts fins, sans fin, déroulant leur pâleur. Dans l'opéra paré d'opales et de pleurs, l'orchestre au grand complet. Dans l'opéra paré d'opales et de pleurs, l'orchestre au grand complet. Dans l'opéra paré d'opales et de pleurs, l'orchestre au grand complet contrefait mes sanglots. J'aurais voulu fixer dans ma folle mémoire cette rose, dit-il, cette meuve inconnue, ce domino fantôme au bout de l'avenue qui changeait pour nous seuls de robe tous les soirs. Ces nuits, t'en souviens-tu, mes souvenirs mignons, avaient autant d'éclairs que l'œil noir des colombes. Rien ne nous reste plus de ces bijoux de l'ombre. Nous savons maintenant ce que c'est que la nuit. Ce qui sème d'amour manquait pour adresse. Et tes lèvres tenaient tous les soirs le pari d'un ciel de cyclamen au-dessus de Paris aux nuits, à peine nuit, couleur de la tendresse. Le firmament pointait ses diamants pour toi. Le firmament pointait ses diamants pour toi. Je t'ai joué mon cœur sur les chances égales, le soleil tournant des boulevards, feu de Bengale, que d'étoiles à terre et par-dessus les toits. Quand j'y songe aujourd'hui, les étoiles trichèrent, le vent charriait trop de rêves dérivés, et les pas des rêveurs sonnaient sur les pavés, les amants s'amassaient sous les portes cochères. Nous peuplions à deux l'infini de nos bras, ta blancheur enflammait la pénombre éternelle, et je ne voyais pas au fond de tes prunelles les yeux d'or des trottoirs qui ne s'éteignaient pas. Thank you.
Portez votre attention sur votre gros orteil gauche. Les yeux toujours fermés, observez-le, détaillez-le extérieurement, comme si vous vouliez le dessiner. Visualisez aussi l'intérieur, car psychiquement, votre vision n'a pas de limite. Voyez les petits os, les petits vaisseaux qui sont à l'intérieur. Vous devez déjà sentir y monter une légère vibration, une sensation agréable de vie, d'énergie ou de chaleur. Toute votre conscience est actuellement dans votre orteil gauche. Comme si vous étiez complètement à l'intérieur de cet orteil. Étendez maintenant votre conscience au gros orteil droit. La sensation d'énergie envahit votre orteil droit. Vous visualisez très nettement vos deux gros orteils que vous contemplez et que vous ressentez avec force. Passez progressivement aux autres orteils des deux pieds. Vous devez voir intérieurement l'ensemble de vos orteils avec le plus de réalité possible. Les bouts de vos pieds sont maintenant très vibrants, très présents.
Et c'est donc sur cette dernière leçon, on peut dire, de méditation que nous allons clore la suite de pièces 7 et autres objectifs que nous ouïmes. En cette quatrième partie, donc, nous avions eu le plaisir de la collaboration de Len Sundquist, notre nouvel historien sonologue, qui reviendra, j'espère, le mois prochain avec une nouvelle trouvaille. Puis, enfin, ensuite, un texte d'Aragon avec une ambiance de bar au Ring à Toulouse et Norma Castadiva de Vincenzo Bellini par Anna Netrebko, des pièces de Monet, le poème La nuit d'exil du recueil, donc Les yeux d'Elsa d'Aragon. Et nous avons oublié d'incruster des moments de scie circulaire dessus, c'est bien dommage. Prochaine fois. N'est-ce pas, Anska?
En effet, Rato, mais ça n'est pas grave.
Non. Mois prochain.
Et concernant la méditation, Rato, de quoi s'agissait-il exactement?
Je n'ai pas les sources.
D'accord, vous n'avez pas les sources de méditation. Je crois que c'est un texte de méditation qu'on a dû trouver sur Internet, oui. Sur une source un petit peu douteuse et,
autour du gros orteil.
Et empirique, ouais. Voilà, avec pour thème les deux gros orteils des pieds, puis quelques sons de votre...
Oui, salle à manger.
Voilà, en effet c'est ça. En tout cas, je pense qu'on a fait une bonne session ce mois-ci, c'était plutôt sympa.
Oui, c'est sympa.
Alors quand même, on fait un appel aux auditeurs, éventuellement, si vous êtes en possession d'archives sonores un petit peu étranges, bizarres ou sympas, voilà, vous pouvez donc nous contacter à Canal Sud, et on vous mettra en relation avec l'historien sonologue Len Sundquist. Et puis, bien sûr, on se retrouve le mois prochain, toujours le premier samedi du mois. Alors c'est quoi les horaires déjà, Erato? Je me souviens jamais.
De 11h30 à 13h.
Voilà, merci de me le rappeler. Et on fait toujours éventuellement un appel à un participant, s'il y a des gens qui ont envie de, je sais pas, s'amuser un peu, créer de façon contrainte, expérimentale avec nous. Vous êtes les bienvenus.
Oui. D'ailleurs, nous avons le temps de diffuser finalement cet appel.
Ah.
Le prochain animateur n'est pas encore arrivé.
D'accord. Écoutez, c'est parfait. On va faire ça comme ça. Tout est dit, tout est écrit. Merci à tous.
Spécialiste d'un domaine précis, en rupture de ban avec votre environnement familial, vous n'avez jamais osé tuer le maire, vous étudiez le droit et vous réécririez bien les textes de façon plus libre, plus drôle, vous descendez d'une famille qui regarde la télévision 7 heures par jour, vous êtes en études de médecine et vous souhaiteriez redistribuer les organes différemment. Vous passez votre journée sur un marteau-piqueur et souhaiteriez créer un peu de musique contemporaine. Vous êtes premier prix du conservatoire et souhaiteriez vous adonner à la créativité. Vous aimez les gens et souhaiteriez rendre compte de sociologie expérimentale. Vous avez vous aussi des spams intéressants que vous souhaiteriez transmettre. Vous débordez d'inventivité bienveillante. Alors, venez proposer votre chronique ou vous joindre à l'équipe Dunger Dong,
Hanska Gluck et Erato Muan.
Nous avons de faux noms, mais une véritable adresse mail que voici. hungerdong@gmail.com hungerdong@gmail.com
so big over there. They stink.
I see everywhere.